De retour à notre émission, on discute avec Pascal Bernacchi, qui est titulaire au niveau de la chaire de recherche en géosciences côtières à l'UQAR, l'Université du Québec à Rimouski. Évidemment, ces tempêtes qu'on a vues chez nous depuis les dernières années et récemment, donc, qui ont touché, donc, tempête qui a touché Percé, Gaspé, plusieurs secteurs de la Gaspésie. On parle de submersion côtière, on parle aussi d'érosion côtière, de recherches qui vont se faire là-dessus. Alors, on discute de tout ce phénomène-là avec M. Bernacchi. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est pas nouveau.
Quand on parle de l'impact de l'érosion, des changements climatiques, il faut vraiment regarder ça là, de manière globale et de pouvoir identifier où seront les zones qui seront les plus sensibles et où les milieux, finalement, vont être les plus résilients, parce que c'est ce qui va déterminer le type de solution d'adaptation là, qu'on va mettre de l'avant.
OK. Donc, c'est vraiment du cas par cas, c'est pas mur à mur. À quoi on peut s'attendre, justement, là? Est-ce que ça va amplifier?
Oui, bien, en fait, on anticipe, là, pour, dans des travaux qu'on a fait avec nos collègues de l'Institut des sciences de la mer, là, où on est en train, en fait, de modéliser le couvert de glace pour le futur, ben, on constate, là, que d'ici 2055, on va avoir une réduction, là, d'environ, là, 40 à 50 jours de glace, donc de glace qui pourrait protéger le littoral. Donc, c'est donc dire que pour le futur, effectivement, il va y avoir une plus grande exposition de nos littoraux à ces événements-là de tempête et que dans certains secteurs, là, on pourrait voir finalement là, une accélération de l'érosion côtière et des événements, surtout des événements d'inondation côtière, comme on a connu là, le 30 décembre 2016.
Bon, est-ce qu'il sera possible d'éviter les dégâts des situations, justement, là, comme on a vu?
Oui. Ben, en fait, c'est un peu le but là, du grand chantier là, qui est mis de l'avant. Là. On va travailler, en fait, avec à l'échelle des MRC des municipalités à identifier pour chaque tronçon, finalement, côtier, les meilleures solutions, des solutions qui vont être vraiment adaptées à la dynamique côtière, adaptées finalement au changement climatique, puis également en fonction vraiment des besoins exprimés là, par les acteurs locaux et régionaux en matière d'adaptation au changement climatique, là, pour réduire finalement justement non seulement le risque pour les populations côtières, mais également au niveau le risque là, pour les infrastructures côtières.
On a vu beaucoup d'enrochements. On le voit le long de la côte, c'est ce qu'on a fait là, dans les dernières années. Est-ce que ça, c'est pas adéquat dans le fond? C'est ce qu'on comprend, là?
Bien, en fait, c'est ça. Au Québec, ça, c'est relativement simple, là, au cours, je dirais, on reconstitue l'évolution des côtières là, jusque dans les années 30, là, notamment à partir des vieilles photographies aériennes. Et on constate depuis toujours que les communautés ont tenté donc de s'adapter à ces phénomènes-là. Et on a mis en place principalement là justement des murs composés de différents matériaux, du béton, des roches, des enrochements. Et ces types de structures-là, on pourrait faire, notamment lorsqu'on les implante sur des côtes basses, sablonneuses, on pourrait faire de réduire la largeur des plages, d'abaisser le niveau des plages. Et ça, donc, ça fait en sorte que finalement, l'énergie des vagues est moins absorbée et ça peut même donc favoriser les phénomènes d'inondation côtière comme on a connu le 30 décembre. Donc, ces structures-là rigides peuvent être parfaitement là, adéquates pour, par exemple, des côtes qui sont composées de grandes falaises. Par contre, pour les côtes basses, sablonneuses, les côtes qu'on peut retrouver, par exemple, là, dans le nord de la Gaspésie ou dans la baie des Chaleurs, ben effectivement, dans ce type de milieu-là, ces structures-là sont pas vraiment là adéquates. Donc, il faut aller vers d'autres solutions.
Parlez-moi un peu des autres solutions, outre que l'enrochement, oui. On parle de recharge de plage beaucoup. On a vu le cas du parc Forillon.
Oui, on parle, c'est ça, de recharge de plage. C'est sûr que, bon, au Québec, les exemples sont peu nombreux. Par contre, il y a certains exemples qu'on a documentés, par exemple, dans la région de Sept-Îles, où on mesurait des reculs là, de 1 à 2 mètres par année. Et à la suite, donc, en 2000, à la suite de cette recharge-là, bien, on a connu une stabilité du milieu, mais en plus même un gain. Donc, il y a eu même une accumulation de près de 50 mètres.
Bon, est-ce que inévitablement il y aura aussi des déplacements de population? Est-ce qu'il y aura des zones trop à risque et on devra aller comme de l'avant avec ça?
Certain que dans certains endroits, on n'aura pas le choix, je pense, d'en arriver à ce type de solution-là. Mais je pense pas qu'on va connaître finalement des grands déplacements là, massifs là, d'infrastructures.
Mais ce sera du cas par cas plus là, pour certaines zones ou certains secteurs.
Exactement, oui.
Donc, on ne croirait pas va partir avec un village côtier au complet puis le déménager, là.
Non, je crois pas. C'est sûr que, bon, il y a déjà eu des cas, par exemple, dans la région encore de la Côte-Nord, la région de la Moisie, il y avait un village, là, qui était vraiment en bordure dans l'embouchure de la rivière et de la mer. Et le gouvernement a pas eu le choix, à un moment donné, de déplacer, finalement, le village parce qu'il y avait vraiment soit des inondations, de l'érosion. En fait, il était affecté tant par les inondations de la rivière que par les éléments de tempête. Mais actuellement, quand on regarde l'ensemble de l'estuaire et le golfe, je pense plus que ça va être justement là du cas par cas. Ça va être vraiment certaines infrastructures qui vont être plutôt là déplacées.
Excellent. Donc, Pascal Bernatchez, titulaire de la chaire de recherche du côté de la géosciences côtières à l'UQAR, merci pour tous ces détails.
Merci, au revoir.